Merci pour votre témoignage, très intéressant. J'aurais souhaité avoir un peu plus de précision, par exemple sur des thématiques que vous avez abordées lors des formations. J'ai bien compris qu'elles étaient très adaptées en fonction des contextes vécus par les écoles. Mais voilà, si vous pouviez donner un petit peu plus d'éléments, hein, tant par rapport, je pense que les différentes thématiques, oui, que ce soit côté parents, côté enseignants, posture, enfin, etc. Voilà.
C'est aller effectivement de la posture, comment on se présente, comment on va accueillir, comment on va dire bonjour, où est-ce que ça peut se dérouler, l'importance des lieux, portail, pas portail, école, pas école, salle de classe, pas salle de classe, voilà. Donc des échanges vraiment très divers là aussi. Ça a beaucoup, beaucoup tourné autour de ce sujet-là. Pour arriver à se dire que effectivement, c'était souvent plus la posture d'accueillant qui était fondamentale que finalement le lieu où ça se passait. C'est ce qui a été dit. Hein. Moi, je relate. Hein. Après, je relate tel quel dans les échanges. Ça a parfois tourné aussi du côté des familles justement sur la question. Les devoirs à l'école, oui, un petit peu, mais aussi l'accompagnement au moment des sorties. Ça, c'est quelque chose qui a été énormément débattu dans les forums école-famille. Pourquoi ? Pourquoi vous avez besoin qu'on vienne et qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? Voilà. Donc, du coup, il y a un groupe qui travaille là-dessus en ce moment, justement, sur comment on peut, avec les familles, travailler cet accompagnement, alors à la sortie, mais aussi quand on va voir, par exemple, quand on emmène des élèves voir un spectacle, on va travailler le rôle du spectateur avec les enfants. Bien, qu'est-ce que ça veut dire que d'emmener aussi des parents à qui on va demander d'être accompagnateur sur un spectacle qu'ils n'ont pas forcément vu pour qui ça va être compliqué. Donc voilà, c'est un sujet, par exemple, qui est travaillé en ce moment, hein, en ce moment même. Après, sur ce qui a été énormément, énormément travaillé, c'est la première entrée à l'école et l'entrée au CP. Voilà. Je vous dis bien, on est sur l'axe entrée au collège maintenant. Ça commence à avancer et à bien avancer là-dessus. Et là, pour le coup, de partout, c'est-à-dire que toutes les écoles, y compris les écoles qui sont en milieu rural, avec des collèges qui ne sont pas forcément en éducation prioritaire, travaillent vraiment cette entrée en sixième. Par contre, la préparation à la première entrée à l'école, elle a démarré du côté des écoles urbaines, politique de la ville, éducation prioritaire, mais aujourd'hui, c'est diffusé vraiment de partout et avec des choses, mais enfin, quand je vous dis... Si moi, j'avais proposé ça à mes collègues en termes d'action, ils m'auraient dit « mais on n'y va pas ». Alors que là, travail avec les familles à partir du mois de mai, réunion collective, mais rencontre individuelle, venue dans les classes des enfants avec les parents ou avec les nounous, avec les EJE, etc., quand c'est des structures de garde. Temps conviviaux, bien évidemment, plus une rentrée échelonnée, mais qui est préparée avec les familles au mois de mai, juin. Voilà. Moi, si je leur avais dit, oui, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, mais je pense que j'aurais eu 5 à 10% des collègues qui me suivaient là-dessus. Là, c'est incroyable le travail qui a été mené. Et justement, quand on a fait le retour en réunion de directeurs récemment, il y a des collègues, des jeunes collègues. Quand je vous dis des jeunes collègues, c'est-à-dire que nous, on a des équipes d'école où la directrice qui est la plus vieille est une T3. Je ne sais pas si ça vous parle. Une T3, ça veut dire que c'est sa troisième année d'enseignement, hein, et qu'elle a été inspectée pour la première fois l'année dernière. Donc nous, nos directeurs d'école, c'est des fois des T2 ou des T3, et on a dans l'école 5 néo-titulaires. Hein, voilà. Donc des jeunes collègues qui disent, ben voilà, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est... Alors, pas Vienne, mais Roussillon, hein, c'est PH de Roussillon. Et Roussillon, c'est le berceau du Nouvel An. Hein, voilà, donc le Nouvel An, c'est quelque chose d'un peu particulier chez nous. Donc, Lady de Roussillon qui dit que l'an commencera au 1er janvier, c'est l'Isère rhodanienne. Hein. Donc, ça se fête chez nous. Voilà. Donc, pour le premier de l'an, les collègues ont décidé d'inviter les familles simplement pour souhaiter le nouvel an. Il y a 4 ans en arrière, si je leur avais dit ça, c'est pareil. Quoi. Ils m'auraient dit, mais attends, ça va servir à quoi ? Là, elles viennent. C'est même pas ça va servir à quoi. C'est un moment convivial. Et après, par contre, oui, bien sûr qu'on se voit, bien sûr qu'on invite les parents, bien sûr qu'on parle d'autre chose aussi. Et l'invitation et non plus la convocation, ça y est, c'est passé par contre, complètement. Complètement. C'est-à-dire qu'on invite les parents de nos élèves à venir nous rencontrer. Donc moi, je dis, déjà, si on en est là, invitation et plus convocation. Pour moi, c'est déjà énorme. Après, c'est comme toujours, hein, le temps, hein, je pense que la temporalité, elle est fondamentale, c'est-à-dire que rien ne change du jour au lendemain. Il y a des choses qui avancent petit à petit, il faut l'accepter aussi. Il y a des choses qui ont fait des bons phénoménaux, et puis il y a des endroits où l'avancée, ben, c'est un petit pas de fourmi. C'est comme ça. En tout cas, tout le monde est dans cette dynamique-là. Et les nouveaux arrivants sur la circonscription sont dans cette dynamique-là aussi au fur et à mesure. Nous, on a su trouver des réponses parce qu'on y était aussi... on a été contraints d'en trouver. Parce qu'on était dans une situation... Enfin, quand moi, je suis venue et j'ai témoigné il y a 3 ans, je n'étais pas aussi optimiste que cela, loin de là. On était contraints et forcés de trouver des solutions parce que tout le monde était mis à mal, tout le monde. Donc si tout le monde, les adultes sont mis à mal, au niveau des élèves, on savait aussi qu'il y avait un certain nombre de choses à régler. On a fait ce choix-là, c'est peut-être pas forcément le meilleur, c'était notre choix en tout cas à ce moment-là.
Oui, pour rebondir, de notre côté, ça avait été l'idée de... Bon, puisqu'on avait créé un lien avec cette circonscription, ça avait été de dire, plutôt que bon, on travaille en petit comité restreint, ben finalement, on va prendre un temps de la formation où on va poser l'étude de cas. Et je me rappelle que la problématique, c'était à ce moment-là, ce qui était difficile, c'était le turnover des enseignants. Et sur certaines écoles, un turnover à 100%. Qui fait que les parents ne pouvaient pas avoir de repères, puisque les enseignants qui arrivaient n'avaient aucun repère, il n'y avait aucune transmission possible d'une année sur l'autre, quasiment, si ce n'est la circonscription, mais la circonscription n'allait pas sur place. Et donc, c'est quelque chose, une étude de cas qui avait été travaillée dans un atelier ici, et où était née cette idée de charte comme... Au départ, bon maintenant Magali dit ses prétextes, mais au départ c'était l'idée qu'il fallait qu'il y ait une trace pour que les nouveaux s'inscrivent dans cette trace pour arrêter d'exploser les parents sur des repères qui étaient sans arrêt à recréer tous les ans avec de nouveaux enseignants. Quoi. C'était des cas extrêmes, mais c'était à ce moment-là, je me rappelle, bon, c'est peut-être ma perception, mais c'était vraiment ça. Il fallait vraiment trouver une solution à ce niveau-là, quoi. Voilà, donc là, je vais proposer de... Pareil, Magali, tu es là juste aujourd'hui ou tu...
Oui.
Oui, donc, mais tu es là cet après-midi.
J'ai des néo-titulaires à voir demain matin.
Tu es encore là cet après-midi. Oui. Donc, possibilité d'échange avec Magali. Donc, je vous propose de... qu'on regarde un extrait de la conférence de l'an dernier de Pierre Perrier sur la notion de partenariat avec les parents. Pas tant en bonnes paroles qui arrivent en fin de matinée, mais plus en éléments peut-être sur lesquels s'appuyer en termes de connaissances de parents de milieux populaires. Pierre Perrier disant que ce n'est pas les parents de milieu populaire, c'est des parents avec chaque famille a son histoire. Hein, donc, je propose de passer à ce moment-là.
Pialou l'ont bien montré, c'est confirmé dans bien d'autres recherches, ils croient en l'école, ils croient en leur chance par l'école. Et donc, l'avenir passe par l'école, et du reste, par où peut-il passer s'il ne passe pas par l'école, hein? Il y a guerre d'alternatives. C'est là un vrai changement de modèle, si vous voulez. Jusqu'à dans les années 60-70, on pouvait faire un peu près sans l'école. Hein? On sortait sans qualification. Ils étaient quatre fois plus nombreux dans les années 70 qu'aujourd'hui, mais ça n'avait pas les conséquences que l'on connaît aujourd'hui. Donc, les parents ont bien conscience que l'avenir passe par l'école, et ils ont un niveau d'ambition qui s'est considérablement élevé, jusqu'à parfois des formes d'irréalisme scolaire. Ils s'imaginent des choses dont on sait que ce ne sera pas possible, quand on voit les difficultés scolaires que rencontre l'enfant. Mais il y a une espérance, et donc on ne peut pas dire qu'ils seraient des missionnaires ou sans ambition pour leur enfant. Ils ont l'ambition à la mesure de leur position. Mais ils ont cette ambition, comme on le voit à travers, par exemple, les métiers auxquels ils songent pour leurs enfants. Alors, c'est dans ce contexte que le partenariat s'est imposé comme nécessaire, l'école comme enjeu, la complexité des rapports avec des familles diversifiées, l'intensité des enjeux sur certains territoires, et les missions de l'école vont se diversifier, vont s'étendre, vont se complexifier. Et l'école, c'est l'école qui invente donc l'idée du partenariat qu'on peut définir comme une norme de régulation des scolarités. C'est-à-dire, ça doit être un mode de relation qui permet de prévenir, de réguler, de réparer sur le plan scolaire et comportemental. A priori, c'est ce qu'on pense. D'ailleurs, des relations avec les parents, ça va aider à prévenir certaines difficultés, réguler par l'information qui va circuler, surmonter les épreuves d'une scolarité qui n'est jamais un long fleuve tranquille, comme on le sait bien. Donc le partenariat est là comme un modèle évident presque, c'est précisément de cette évidence dont il faut se méfier, et même nécessaire, et d'autant plus nécessaire qu'on est dans les quartiers populaires. Plus c'est difficile, plus on pense que la réponse passe par le partenariat. Alors, il faut se poser la question des intentions qui sont visées, des ambitions, de notre ambition, lorsqu'on pense dans ces termes de partenariat, et des conditions de possibilité, c'est ça qui m'intéressait, pour tous les parents d'être les partenaires que l'institution attend. Des conditions de possibilité pour tous les parents d'être les partenaires que l'institution attend. Et vous voyez que, formulé dans ces termes, on interpelle l'institution. On se dit, mais c'est quoi cette norme du parent d'élève, pour parler comme Dominique Dasman, c'est quoi cette norme du partenariat et des relations qui conviennent, la bonne distance, les modalités, le savoir-faire, le savoir-être, qui va être conforme à ce que l'institution attend. Et donc le regard doit se porter tout autant du côté des familles que du côté de l'institution scolaire. Quelle est son idée, quelle est son attente à travers partenariat qu'elle appelle de ses voeux, à travers la coéducation, qui est aussi un autre mot d'ordre presque, j'ai envie de dire, depuis la loi d'orientation de 1989, pour que les parents fassent avec, c'est le modèle de faire avec l'école. Alors faire avec, c'est évidemment une visée qu'on est enclin à partager, mais une fois de plus, poser la question de est-ce que tous les parents sont dans cette logique, et est-ce que tous les parents savent comment faire pour être les parents partenaires qui vont coopérer, qui vont être associés. Et de ce point de vue, il y a des ambiguïtés, parce que finalement, est-ce que les parents sont dans un statut d'allié lorsque tout va bien? Est-ce qu'ils sont des auxiliaires scolaires? Vous voyez, quand il y a des devoirs à surveiller à la maison, ou lorsque l'enseignant dit à ses élèves que on n'a pas le temps de finir, vous finirez ça à la maison avec vos parents, avec maman, ou lorsque bien sûr les parents sont censés prendre l'initiative, être informés, suivre la scolarité comme ils disent si bien, alors même que parfois ils ne parlent même pas la langue française ou si difficilement, donc on est assez loin de la possibilité pour eux effectivement d'être d'être des alliés. Puis ils sont souvent aussi dans la figure du recours. Et on n'a pas le temps ce matin, mais quand on regarde les choses strictement du point de vue des enseignants, on voit bien que c'est cette logique-là Hein, c'est le parent recours. Pour les CPE aussi, c'est le parent recours, hein, conseiller principal d'éducation. Hop, il se passe quelque chose, je prends mon téléphone, j'appelle, j'appelle les parents. Vous voyez, c'est le recours. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, ce n'est pas la question. C'est, je veux dire, le quasi-réflexe professionnel, c'est j'appelle les parents. Hein. Que font les parents? En plus, ils ne répondent pas, le numéro n'est pas bon. Et là, voilà, on commence à avoir tout un film qui... et des images qui viennent à l'esprit, qui fait que déjà, sans même le connaître, quand on va le rencontrer, on aura déjà une idée un peu préfabriquée, hein, de ce parent-là par rapport à d'autres qu'on aura vus, qui ont été présents, qui ont réagi conformément à ce qu'on attend. Donc c'est un peu tout ça qu'il faut quand même déconstruire pour ne pas se laisser piéger nous-mêmes par nos préjugés et les fausses évidences qu'on construit à travers ce partenariat. Alors, juste un dernier mot sur cette diapositive pour dire que partenariat, c'est quand même l'idée assez ambitieuse finalement, qu'on fixe des objectifs et qu'on définit les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. C'est ça le partenariat. Hein. C'est des finalités partagées et des moyens définis par les partenaires pour atteindre ces objectifs, les buts qu'on s'est fixés. C'est ambitieux. Peut-être faut-il préférer le terme de coopération qui consiste à effectivement définir ensemble les moyens pour atteindre ces objectifs. Mais les objectifs ne sont pas nécessairement fixés par les deux parties. Hein. Peut-être que l'école, et c'est ce que me disent un certain nombre de parents, elle a à définir ce qui est bon scolairement pour l'enfant, comment le faire progresser, c'est sa responsabilité. Et les parents sont d'autant plus enclins à le penser qu'ils se jugent incompétents pour intervenir dans ce domaine. Hein? Donc, laissons l'école travailler dans l'intérêt du plus grand nombre et de façon efficace. Concertation, collaboration, c'est faire ensemble la collaboration. Hein? Et donc, effectivement, il y a des parents qui collaborent, mais qui ne sont pas nécessairement partenaires, j'ai envie de dire. Hein? Parce que, voilà, à un moment donné, on nécessite une maman qui va accompagner un groupe pour une sortie à la piscine, elle collabore. Hein, elle n'a ni défini l'activité, ni même les moyens. On l'a juste sollicité à un moment donné. D'ailleurs, il y a souvent des parents de milieu populaire qui viennent à ce moment-là pour dire « Venez accompagner, si vous le pouvez, pour telle sortie, telle activité, ou le jour de la fête de l'école, tenir un stand, par exemple. Hein. » Donc, on a une certaine sociologie des parents à ce moment-là qui n'est pas tout à fait celle des parents qui sont dans les conseils d'école, les conseils d'administration, des collèges et des lycées. Voilà. Alors, il y a une boîte noire, on va essayer de l'ouvrir ensemble, du partenariat, parce que chacun ici, je pense, sait que sur le terrain, c'est pas simple, et que finalement, avec les meilleures intentions, on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, à toucher les publics, à résoudre les problématiques qui se posent à nous. Donc il y a une forme de boîte noire. Alors, la boîte noire, c'est à travers certaines expressions ordinaires, et il faut être très attentif au langage ordinaire, aux catégories indigènes, comme on dit, c'est-à-dire comment les gens parlent des problèmes ou des questions, comment ça se pose, dans quel terme ça se pose pour eux. Et lorsqu'on parle effectivement du parent d'élève, hein, comme d'une évidence, il faut sans doute essayer un peu d'identifier les implicites, les impensés, comme je dis, c'est-à-dire ça paraît si évident qu'effectivement la question ne se pose même pas. Et il y a un certain nombre comme ça de points dont je me suis rendu compte à la faveur des entretiens avec les parents que ça n'avait strictement rien d'évident, hein, contrairement à ce que le modèle du partenariat semble laisser entendre. Qui peut-on rencontrer? Quand? À propos de quoi? Selon quelle fréquence? Je passe vite, hein, vous aurez le diaporama pour ceux qui s'intéressent. Donc déjà, il n'y a rien d'évident à se dire « je vais rencontrer un professeur principal ». J'ai rencontré une conseillère psychologue pour l'orientation de mon enfant, COPSY. Hein, quel étrange nom, vu de l'extérieur quand même. Hein. CPE, professeur principal et l'autre qui ne l'est pas. Tiens, bizarre. Donc il y a comme ça un monde un peu étrange. Hein, Durkheim, notre père sociologue français, disait qu'il faut pénétrer dans le monde social comme on pénètre dans l'inconnu. Et je crois que c'est un peu ces lunettes-là qu'il faut chausser lorsqu'on va essayer d'éclaircir l'opacité du système éducatif. Hein, c'est se dire c'est complètement opaque. opaque, on ne perçoit pas bien ni les acteurs, ni la division du travail éducatif au sein de l'institution scolaire. D'ailleurs, même les acteurs professionnels, des fois, se demandent qui doit faire quoi. Donc, c'est pour dire qu'un parent extérieur peut parfois être un petit peu quand même... perdu dans ce monde étranger dont il est peu familier, où il se sent à peine légitime, hein, ayant été lui-même peu scolarisé, parfois avec un sentiment d'échec. Il y a donc un mode d'emploi pas évident. Des obstacles pratiques, eux qui le sont, évident. C'est-à-dire comment faire pour se libérer pour une réunion, puisque précisément je ne dispose pas de mon temps, je n'ai pas ce pouvoir sur mon temps. Comment prendre un rendez-vous ? Un rendez-vous, c'est un acte fort. Ça veut dire je vais disposer du temps de l'autre. Hein, je ne vais pas déranger les enseignants, disent les parents. Hein, il faut avoir un objet suffisamment important à discuter pour s'autoriser à dire je vais prendre rendez-vous avec un enseignant. C'est occuper une certaine position vis-à-vis de l'autre que lui demander de son temps pour un rendez-vous, voyez. Donc il faut avoir quelque chose à dire quand même et à argumenter. Et il y a beaucoup de parents qui pensent que voilà, ça se justifie pas et ils ne s'autorisent pas à prendre ce rendez-vous. Donc rien d'évident lorsqu'on dit mais pourquoi les parents sont pas venus nous voir? Pourquoi ils n'ont pas demandé un rendez-vous? Tout simplement, ils ne le peuvent pas. Des obstacles symboliques, hein, quelle légitimité pour ces parents? Comment est-ce qu'ils peuvent apparaître comme des interlocuteurs reconnus par l'institution scolaire, eux qui méconnaissent l'institution, qui ne comprennent pas bien les apprentissages de l'enfant? Une situation d'isolement face à l'école, donc il n'y a pas trop de relais, de médiation, hein, c'est tout l'enjeu du travail qui a été fait par ATD Carmon, Bruno vous en parlera, mais voilà, quels sont les relais, les stratégies d'accompagnement que l'on peut déployer pour ces parents-là? Donc il y a une difficulté évidente à se positionner dans les relations, à se conformer au rôle attendu, à négocier ce que j'appelle la bonne distance. Vous voyez, une espèce de réglage, quoi. Hein, parce qu'il y a des enseignants qui vous disent, oh là là, mais ces parents-là, je les vois tous les jours, ils me racontent leur vie, ça déborde. Hein, un partenariat là qui va au-delà du périmètre des sujets qu'on peut aborder. Mais quand est-ce qu'on les a définis? Pas très clairement, hein, finalement. Donc, cette bonne distance et le périmètre des sujets qu'on peut aborder, tout ça me semble encore très flou, et surtout lorsqu'on écoute ces parents des familles populaires. Donc, il y a un rapport de dépendance et un sentiment d'impuissance vis-à-vis de l'école. Je crois que c'est deux termes qui, pour moi, caractérisent très très bien le rapport des familles populaires à l'école. C'est à la fois la dépendance, hein, vis-à-vis d'une institution qu'on reconnaît, dont on attend beaucoup et trop peut-être, et en même temps un sentiment d'impuissance, c'est-à-dire on ne sait pas faire, on ne maîtrise pas bien les règles du jeu, tout en partageant l'enjeu, mais les règles du jeu, on ne les maîtrise pas bien et on n'a pas les atouts, on n'a pas les ressources, voyez, pour bien se placer, pour savoir faire, pour communiquer comme il le faudrait. Et la peur, hein, dont on entend si souvent parler, c'est, dans un langage sociologique, l'expression de ce rapport de domination symbolique. Hein, c'est quand vous vous sentez petit face à une puissance que vous avez peur, effectivement, et c'est un peu ce que ressentent, me semble-t-il, un certain nombre de parents. Donc, ils sont souvent dans une attitude de disponibilité bienveillante. Ils disent, nous, on est là, si besoin. Hein, ils peuvent faire appel à nous. On viendra, on réagira, mais tant qu'ils font pas appel à nous, voilà, on le laisse faire parce que ce sont eux qui savent faire, hein, qui sont compétents. Alors la charge des devoirs, je vais passer vite parce qu'ils critiquent du partenariat pour se demander s'il n'y a pas des effets pervers, c'est-à-dire cette norme du parent d'élève, elle risque en cas d'absence, en cas de parent carent, défaillant, de fabriquer la figure du parent démissionnaire, hein, ce parent stigmatisé. Je pense que d'une certaine manière, c'est l'idée même, la norme du parent partenaire qui fabrique la figure du parent démissionnaire. Et alors, vous voyez que là, interpellation directe de l'institution scolaire, Qu'est-ce qu'on fait finalement lorsqu'on dit qu'il faut des parents partenaires et qu'on les attend alors que tous ne viennent pas? Eh bien, d'une certaine manière, on construit une catégorie de parents qui, par leur silence, par leur absence, vont devenir des parents coupables et qui vont devenir, de façon plus ou moins explicite, des figures de parents démissionnaires. Ces invisibles hein, qui, par leur absence, effectivement, deviennent coupables ou parce qu'ils ne réagissent pas comme il faudrait, n'anticipent pas comme on l'attend. Et donc, finalement, il y a un effet pervers, là, assez insidieux, je dirais, sur lequel il faut peut-être vigilant, dans la mesure aussi où, finalement, l'école qui s'ouvre en direction des parents peut conforter l'avantage de ceux qui étaient déjà les plus à l'aise, les plus familiers avec l'institution scolaire. Vous voyez, un effet totalement contraire, d'une certaine manière, à ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire ça souligne l'éloignement de certains et ça valorise la présence d'autres hein, qui déjà étaient plus familiers et plus en connivence culturelle avec avec l'école. Et donc c'est là que j'introduis ce concept du différent, hein, avec un D, qui nous dit qu'il n'y a pas accord sur les règles de l'échange. Il n'y a pas accord sur le partage des rôles et des responsabilités. Et dans le différent, un concept du philosophe Jean-François Lyotard, on comprend aussi que c'est l'impossibilité, en cas de malentendu, si vous voulez, en cas de désaccord, de trouver justement un accord, une règle pour sortir du conflit. Donc quand ça va mal, on ne sait pas comment faire. Le différent, c'est ça. C'est une situation qui va tomber dans l'impasse. Donc, on ne se parle plus, on ne communique plus, on ne veut plus se voir, on n'est pas sur la même longueur d'onde, me disait une mère. Et donc, s'il n'y a pas un tiers, une médiation, effectivement, la situation reste bloquée jusque le déni de réalité, parfois, parce qu'on voit des parents qui ne veulent plus reconnaître l'école dans ce qu'elle dit de leur enfant, de l'élève. Enfin, voilà, ils ont... ils ont coupé avec l'école. Donc il y a un paradoxe du partenariat, et c'était ça qui m'avait, moi, intéressé au départ, c'est que il s'adresse à un parent idéal qui, évidemment, représente une minorité des parents. Donc vous voyez, c'est comme si on vous mettait un objectif inaccessible pour le plus grand nombre et qu'on allait vous juger à l'aune de cette norme. C'est injuste. C'est pour ça qu'il y a quelque part de l'injustice, hein, parce qu'on la fabrique à travers ces normes inaccessibles pour une partie des parents. Et second paradoxe, c'est qu'il est plus développé là où il est jugé moins nécessaire, hein, c'est-à-dire quand les résultats parlent d'eux-mêmes, vous voyez, les parents sont présents, voire surprésents, inutilement présents, hein, et là où on aimerait les voir davantage parce que c'est difficile, eh bien, ils sont plus souvent absents ou... en retrait. Donc il y a quand même un paradoxe qu'il faut questionner parce que ça fait quand même un certain nombre d'années que ça dure et donc réfléchir à sans doute inventer, on pourra y revenir, d'autres façons de penser ce partenariat. Alors